Je ne voudrais pas oublier ce matin de saluer ceux qui nous suivent par le Zoom, et je le fais avec joie parce que dans les temps passés, j'ai souvent oublié de le faire et je le regrette. Je leur demande de me pardonner, mais en tous les cas, que le Seigneur les bénisse en même temps qu'il le fait pour chacun d'entre nous. Je constate aussi aujourd'hui que les vacances ont creusé les rangs, hein. Mais c'est aussi pour eux que nous demandons au Seigneur qu'ils puissent être renouvelés dans leur force physique et spirituelle et reçoivent du bien de la part de Dieu. Voilà, je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre d'Esther, au chapitre 2. Nous commencerons la lecture à partir du verset 19 jusqu'au verset 11 du chapitre 3. 2, Esther 2, verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Térèche, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée : « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la deuxième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus : il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Amen. » Seigneur, nous voulons prêter attention à tout ce que tu nous dis au travers de ta parole. Nous pouvons proclamer aujourd'hui que ta parole est la vérité. Et au travers d'elle, tu nous lances des avertissements, tu nous donnes des conseils, en même temps tu nous révèles combien tu nous aimes, combien tu es bon. Et Seigneur, nous voulons en pleine assurance nous appuyer sur ton bras. Nous savons que nous avons en face de nous un terrible ennemi, mais gloire te soit rendue. Tu l'as vaincu à la croix. Tu as triomphé de l'adversité. Et tu veux que chaque jour, nous puissions marcher avec un cœur joyeux, nos yeux fixés sur toi, en sachant que pour toi, rien n'est impossible et que tu es capable aussi de secourir tous ceux qui traversent une épreuve. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité et à toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je vais commencer ce matin par une déclaration qui pourrait vous paraître déroutante, mais qui pourtant est vraie. En m'appuyant bien sûr sur la parole de Dieu, je voudrais vous dire que la vie et la souffrance sont indissociables. Je lisais encore ce matin dans la parole de Dieu, dans un moment personnel avec le Seigneur, ce que Job a écrit dans son livre. Et il dit ceci, « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. » Une autre traduction de ce même verset dit exactement ceci. Comme l'homme est fragile, que ses jours sont peu nombreux, qu'ils sont pleins de soucis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Fragile, les jours peu nombreux, les jours pleins de soucis. Quel bilan! C'est quelque chose qui pourrait nous effrayer. Mais nous devons reconnaître le fait. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et nous savons que c'est le partage de chacun, le lot que nous connaissons ici-bas sur la terre. La souffrance est constamment, constamment à l'œuvre dans le monde entier. Cependant, même au travers de toutes les choses qui peuvent devenir notre partage, les épreuves, les difficultés, les moments difficiles que nous pouvons connaître, Dieu agit d'une façon extraordinaire et miraculeuse, de telle sorte que notre vie peut devenir entre ses mains quelque chose de merveilleux et de glorieux. J'ai souvent utilisé un exemple, et vous l'avez certainement entendu, et l'exemple que je voudrais placer encore devant vos yeux est celui-ci. Chacun d'entre nous, nous avons pu, parfois, contempler un tableau particulier, que l'on appelle aussi un canevas, un tableau de tapisserie. Nous pouvons admirer un beau paysage, nous pouvons admirer des fleurs qui sont représentées sur ce tableau. Mais s'il vous arrive de retourner ce tableau, alors vous allez constater un fait. Il y a plein de nœuds, il y a plein d'affreux petits bouts de fils Et de l'envers à l'envers, il n'y a rien d'agréable, rien de beau. Cependant, comme quelqu'un l'a dit, Dieu, eh bien, il écrit droit avec des caractères tordus. Nous, nous sommes vraiment des êtres à tout point de vue exécrables. Je sais que nous avons du mal à le reconnaître. Mais le témoignage de la parole de Dieu est une réalité incontournable. Et quand nous sommes honnêtes, nous sommes bien obligés de reconnaître que le bien n'habite pas en nous. Alors voyons comment un peu la souffrance se manifeste dans le monde, se manifeste aussi dans notre vie personnelle. Je regarde, par exemple, au sujet de ce monde, ce que nous pourrions appeler les désastres naturels. Il y a les tornades, il y a les éruptions volcaniques, il y a les tremblements de terre, il y a les raz de marée, il y a les moussons, il y a la sécheresse, il y a les ouragans, il y a les vents du désert, les vents de sable, il y a toutes ces choses-là qui se manifestent dans ce monde. Et puis, je dirais, dans le monde physique, en ce qui concerne l'être humain, il y a quelque chose qui est déroutant. Il y a des bébés qui naissent avec des malformations, certains avec des problèmes cardiaques. Il y en a quelques-uns, et nous en avons eu un aperçu il y a peu de temps. Ici, des bébés peuvent durer juste quelques jours, quelques mois, et puis sont emportés. Parce qu'il y a eu, dans leur être physique, eh bien, quelque chose qui n'allait pas. Et d'autres sont nés avec de telles marques terribles que cela les fait souffrir pendant toute leur vie et ils sont humiliés par des maladies qu'ils vont avoir jusqu'à la fin de leur jour. Sur le plan émotionnel, qu'arrive-t-il aux êtres humains? Il y a des dépressions à répétition, des découragements, des déceptions. Nous savons tous qu'il y a des moments difficiles dans notre vie, presque insupportables pour certains. C'est la raison pour laquelle on entend beaucoup parler, y compris même parmi ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu, de burn-out. C'est-à-dire un découragement, une sorte de déprime incontrôlable. Tout cela, c'est le lot de l'être humain ici-bas sur la terre. Sur la scène nationale et internationale, nous entendons tous parler de points chauds, de quartiers qui brûlent, nous entendons parler d'agitation, de cœurs qui sont en révolte. Il y a des choses qui nous étonnent, qui nous surprennent, mais que nous ne pouvons pas nier, parce que malheureusement, cela constitue une évidence. Alors il doit y avoir quand même une réponse à ces choses-là. Il doit y avoir une base théologique de ce problème. Et la seule réponse que l'on peut donner est celle-ci. C'est que si le mal existe de cette manière-là, d'une manière universelle, c'est parce que, hélas, le péché aussi est un fléau universel. S'il n'y avait pas eu, au départ, cette faute causée par Adam et Ève, eh bien, que se serait-il passé? À mon sens, et je ne veux pas avancer quelque chose comme une doctrine qui serait irréfutable. Mais à mon sens, il me semble que les hommes auraient continué à vivre avec Dieu dans une paix merveilleuse, dans une joie parfaite, dans un bonheur réel, puis arrivé peut-être à un certain stade, Dieu les aurait pris dans le ciel, un peu exactement comme c'est arrivé à Enoch, qui après avoir marché pendant plus de 300 ans avec Dieu, eh bien, s'est retrouvé dans le ciel, dans la gloire. Ça serait, n'est-ce pas, merveilleux? Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, nous pourrions blâmer nos parents, nous pourrions blâmer notre mère, Ève, notre père, Adam. Cependant, chacun d'entre nous ici sait très bien que ce qui leur est arrivé a eu de graves conséquences pour toutes les générations futures, mais nous ne pouvons pas nous soustraire à notre propre responsabilité. Car chacun d'entre nous sait très bien, dans le fond de son cœur, que le péché nous a gagnés. Et nous sommes conscients, et nous devons l'affirmer aujourd'hui, je ne voudrais pas tomber justement dans cette notion qui a été avancée par Jean-Jacques Rousseau, qui disait « l'homme naît bon et innocent, et c'est la génération qui l'entoure, ce sont les hommes qui sont autour de l'être humain qui le rendent mauvais. » Il y a une part de réalité dans cela. Mais malheureusement, nous devons aussi nous rendre à l'évidence. Jean dit exactement ceci. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Nous sommes nés avec, dans notre cœur, cette force, cette puissance qui nous amène dans la voie de la désobéissance. Je voudrais vous dire que j'ai constaté, en élevant les enfants, que, et en constatant dans ma propre vie, qu'on ne devient pas seulement mauvais à cause de l'entourage, mais que ça se trouve naturellement au fond de nous-mêmes. Je ne sais pas si j'avais partagé cela avec vous. Il est absent ce matin, alors je me permets une certaine liberté. Mais j'ai eu un de mes enfants, je ne vous dirai pas lequel, mais qui, tout petit, n'est-ce pas, il avait même pas 3 ans encore. Il commençait juste à parler. Et puis un jour, parce qu'il avait fait une petite bêtise qui est caractéristique d'un enfant de cet âge, je lui ai juste donné une petite tape comme cela, vous voyez, sur la tête, une petite tape. Et il s'est retourné avec une rage incroyable. Il a dit, mais tu es fou! Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, comment? Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis ses 2 mains derrière le dos. Et il a dit, non, mais je le disais au mur. Mais qui l'a enseigné à mentir? En tous les cas, je ne crois pas que ma femme ait enseigné à mentir. Moi non plus. Nous avons essayé de les élever d'une manière conforme à la parole de Dieu. Mais comment est-ce que cette réaction est venue? Parce que naturellement, le cœur de l'homme est mauvais. Et c'est la raison pour laquelle il y a une souffrance aussi qui est universelle. Et le monde entier souffre à cause du péché qui règne dans le monde. Mais voyons un peu ce que nous dit le texte que nous avons lu ce matin. Regardez, il est dit que Assuérus a trouvé un semblant de bonheur parce que il vient aussi de trouver une épouse qui est merveilleuse à tout point de vue. Selon le témoignage de la parole de Dieu, Esther, puisqu'il s'agit d'elle, eh bien, était belle extérieurement, mais belle aussi intérieurement. Le défaut que l'on pourrait lui trouver, c'est simplement, elle était juive. Et comme elle était juive, son oncle Mardoché, qui lui aussi était juif, avait dit à Esther, surtout, ne dis pas que tu es juive. Et elle devait le cacher. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Elle ne l'a pas fait savoir à Suérus, qui est devenu son époux. Mais tandis qu'elle était là, dans le palais, à un moment donné, il y a eu un événement qui s'est produit. Mardoché, qui n'était que son cousin, vous savez tous que Esther était orpheline, et c'est donc le fils de son oncle qui l'a pris sous sa tutelle et qui l'a élevée, et il prenait grand soin d'elle. Et même lorsqu'elle était dans le palais, elle-même restait soumise à celui qui lui avait servi de tutelle, et lui la suivait de très près. Il était toujours à la porte du palais. C'était un homme qui avait aussi probablement une certaine importance. Et voici que, tandis qu'il était à la porte du palais, un jour, il a appris quelque chose. Deux hommes, dont le nom est cité ici, eh bien, ont eu de la rage contre le roi Assuérus. Pourquoi ? La Bible ne nous en parle pas. Mais il avait dû y avoir une certaine circonstance qui avait placé dans leur cœur une forme d'animosité, et ils n'avaient pas su contrôler cela. Et au moment où ils étaient sous le contrôle de la rage, ils ont voulu s'en prendre à la vie d'Assuérus. Mardoché a appris cela. Et comme justement cette fille qu'il aimait, qu'il chérissait, sur laquelle il avait un regard constant, était l'épouse du roi Assuérus, alors il a dit à Esther, avertis Assuérus qu'il est en danger. Vous verrez dans un instant que ce fait est assez important. Vous allez voir comment Dieu utilise toutes les circonstances. Et quand Assuérus a pris des renseignements, qu'il a vu que ce qui lui avait été déclaré était une réalité, alors vous savez, à cette époque-là, on ne tergiversait pas. Et la justice, elle était rapidement faite. Et on a pendu ces deux hommes au bois. Tous ceux qui pouvaient voir ces hommes pendus au bois, eh bien, recevaient dans leur cœur ce message. On ne peut pas transgresser la loi sans en subir les conséquences inévitables et même parfois cruelles. Je vais vous épargner les détails, mais à cette époque, être pendu au bois, les historiens le rapportent, c'était tout simplement être empalé au bois. Et je vous laisse ressentir cette souffrance qui devait être leur partage. Mais en tous les cas, tous les autres qui regardaient cela étaient maintenus dans la crainte. Il y a quelque chose là qui est mis en relief. Et la parole de Dieu poursuit son histoire et nous dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Alors là, je veux m'arrêter un instant. C'est étonnant quand même cela. Après ces choses, c'est dit comme cela, très simplement. Ceci me fait penser à un point que je mets en relief. Vous savez, quand les circonstances changent dans notre vie d'un seul coup, que les épreuves viennent d'un seul coup, on n'en est jamais averti par une voix qui viendrait du ciel pour nous dire « Attention, aujourd'hui, vous allez vraiment souffrir, vous allez apprendre quelque chose de terrible et de redoutable. » Non, ça ne vient jamais comme cela. Est-ce que le diable vous avertit de ce qu'il va faire ? Il ne le fait jamais. Et ça vient comme presque naturellement. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman. Mais là, je m'interroge. Mais qui est-ce qui a fait une bonne œuvre ? Est-ce Aman ou est-ce Mardoché ? C'est Mardoché qui a averti le roi. C'est Mardoché qui lui a épargné de tomber dans un guet-apens. C'est Mardoché qui a été inspiré au point de venir au secours de cet homme. Eh bien, le roi l'a appris, il a agi en conséquence, et il ne fait rien pour remercier Mardoché. Mais au contraire, voilà un homme dont de toute évidence le cœur est cruel, méchant, pervers, et voilà qu'il est monté comme cela en gloire, de telle sorte qu'on lui donne un pouvoir extraordinaire au-dessus de tous les autres grands hommes qui sont dans le royaume d'Assuérus. C'est lui qui obtient la gloire, la magnificence et les honneurs. Vous voyez, mes frères et sœurs, non seulement il y a la souffrance dans le monde, mais il y a l'injustice. Et les chrétiens doivent affronter cela. Nous ne pouvons pas éviter cela. C'est le travail de l'ennemi de notre âme. Et tant que nous serons ici-bas sur la terre, frères et sœurs, eh bien, nous sommes sur le terrain de l'ennemi. Un jour viendra où nous serons délivrés de toutes ces choses-là. Et nous connaîtrons dans la gloire, dans le ciel, un bonheur ineffable. Mais en attendant, eh bien, nous ne devons pas essayer de contourner l'épreuve, pas essayer de l'esquiver. Mais bien au contraire, nous devons demander à Dieu la grâce de pouvoir l'affronter courageusement. Et je dirais même, triompher d'elle en tirant des leçons qui seront utiles pour notre vie tant que nous resterons ici-bas sur la terre. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et chacun d'entre vous a le pouvoir de se retourner, de jeter un regard en arrière dans sa vie. Il y a eu des jours malheureux, des jours heureux, il y a eu des jours où des larmes ont coulé en abondance, il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Mais quand même ce matin, je vous ai entendu, un certain nombre parmi vous, glorifier le Seigneur et le remercier pour sa bonté, sa fidélité. Ce qui veut dire que malgré tout ce qui vous est arrivé, Dieu vous a maintenu le regard fixé sur lui. Et il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Parce que notre but dans la vie doit être d'être rendu semblable à celui qui nous a envoyé pour notre salut, c'est-à-dire à Jésus. Et que dit la Bible au sujet de Jésus? Eh bien, il a affronté quoi? La méchanceté des hommes dont nous faisons partie. Il a affronté toutes ces choses horribles, la trahison, la haine, l'amertume. Il a traversé justement ces moments où il a connu l'abandon de certains qui auraient dû exprimer leur reconnaissance et leur amour. Tout cela, il a traversé. Mais la Bible dit, en vue de la joie qui lui était offerte, et surtout parce qu'il n'avait qu'un seul désir, c'est que nous, nous parvenions au salut et à la vie éternelle. Nous avons donc un dessein de Dieu à accomplir au travers de tout ce que nous pouvons connaître ici-bas sur la terre. Dieu cherche à nous utiliser pour que nous soyons un canal de bénédiction pour les autres. Et voyez-vous, ce qui m'étonne là, c'est le fait que le roi Assuérus ait manqué tellement de discernement, au point d'élever cet homme Aman, de le couvrir de gloire, de lui donner une certaine magnificence. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme orgueilleux Eh bien, il passait tous les jours, comme cela, devant la porte du palais où se trouvait précisément Mardochée. Et Mardochée était un homme fidèle à Dieu. Il y a des observateurs qui étaient là et qui se rendaient compte qu'alors que tout le monde se prosternait devant l'orgueilleux Haman, lui, eh bien, ne bougeait pas, ne manifestait absolument aucun geste qui aurait pu être considéré comme un acte d'idolâtrie. Et quand on lui demandait la raison pour laquelle il ne se prosternait pas devant Haman, la seule réponse qu'il avait était celle-ci: « Je suis juif ». Et pourquoi disait-il « Je suis juif » ? Parce qu'il connaissait la loi de Dieu. Et que la loi de Dieu, c'est quoi ? C'est que on ne doit jamais élever un homme ni l'adorer, parce que quand on adore un homme, un objet ou quoi que ce soit à la place de Dieu, on devient un idolâtre. Quelqu'un pourrait se dire, mais c'était si simple pour Mardochée finalement de faire ce geste. Il aurait pu tout simplement se courber devant lui et puis il aurait eu en quelque sorte, eh bien, la reconnaissance d'Amman, il aurait été tranquille, il aurait eu la paix. Oui, peut-être, d'une part, la paix par rapport aux hommes, mais il aurait été en contradiction avec Dieu. Ce qui me permet de vous dire, mes chers frères et sœurs, n'imaginez pas un seul instant que si vous voulez être consacré à Dieu, vous aurez la reconnaissance de ce monde. Peut-être certains vous admireront, vous aimeront, comme Jésus lui-même l'a dit, s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer, mais s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Et nous n'avons pas le droit de nous attendre à autre chose. Et je profite de cette occasion pour vous dire, mes frères et sœurs, vouloir à tout prix être politiquement correct ou religieusement correct va nous amener de plus en plus des ennuis dans ce monde. Parce que le monde ne va pas dans le même sens que nous. Il ne marche pas dans la même direction que nous. Le monde est inimitié contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, partout dans la Bible, nous voyons cette exhortation: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont du monde. Parce qu'à partir du moment où nous aimons l'esprit de ce monde, nous allons tout simplement nous trouver en contradiction avec la volonté de Dieu. Mais si par contre, eh bien, nous continuons à vouloir être consacrés à Dieu, à marcher dans l'obéissance, et cela nous est toujours et constamment rappelé au travers de la Bible, ce que Dieu attend de nous, c'est l'adoration, et nous ne pouvons être de véritables adorateurs en esprit et en vérité que si nous sommes aussi obéissants à la parole de Dieu, obéissants à la volonté de Dieu. Et obéir à Dieu, ça coûte toujours cher. Il peut y avoir des moments où nous allons tout simplement défendre ce que nous croyons être la vérité. Et nous en sommes conscients, convaincus, au fond de notre cœur, parce que l'Esprit de Dieu peut nous rendre témoignage de ce qu'est la vérité. Et quand nous avons cette conscience dans notre cœur, et que nous avançons dans cette direction, alors nous interceptons l'Esprit de ce monde. Et à cette interception-là, il y a toujours de la souffrance. C'est ce que la Bible appelle la croix. Où nous vivons selon la volonté de Dieu, où nous nous prosternons devant les exigences de ce monde, nous acceptons, nous tolérons certaines choses qui sont de ce monde. Faire cela, c'est tourner le dos à Dieu. Obéir à Dieu, c'est nous exposer à la souffrance, à la contradiction, nous exposer à la haine. Pourquoi ? Eh bien, le texte nous donne une certaine lumière à ce sujet-là. Aman, il est dit qu'il était d'origine amalécite, parce qu'il est agagite. Pour les chrétiens qui ont une certaine connaissance de la parole de Dieu, et je pense que tous ici, vous connaissez l'histoire de Saül dans le premier livre de Samuel, et notamment ce qui est écrit au chapitre 15. Et au chapitre 15 du premier livre de Samuel, qu'est-il dit ? Eh bien, il y a un ordre qui est donné par le prophète à Israël. Ils doivent éliminer les Amalécites. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont toujours comportés en tant qu'ennemis de Dieu, ennemis du peuple de Dieu. Et même lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, eh bien, ils ont voulu se mettre en travers du chemin d'Israël. Et ils se sont toujours opposés à la volonté de Dieu. L'ordre de l'Éternel est clair. C'est un peu comme dans nos vies. Quand Dieu nous dit que nous ne devons pas tolérer le péché. Et attention, mes frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous devons veiller à ne pas tolérer, vous savez, ce péché qui nous enveloppe si facilement. Nous pouvons très bien nous mettre à l'abri des choses les plus grossières, les plus grotesques, les plus infamantes. Mais voyez-vous, pour Dieu, le péché, c'est le péché. Et il y a des choses qui constituent des sortes d'habitudes qui sont mauvaises dans notre vie, qui peut-être même sont des moyens d'attaquer notre organisme, notre corps. Et la Bible dit que tout ce qui détruit le temple du Saint-Esprit doit être éliminé de notre vie. Il y a des choses que nous acceptons et qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et nous devons lutter contre ces choses avec la force que l'Esprit de Dieu nous donne. Christ a triomphé sur la croix, mais non pas pour nous abandonner à notre sort. Il nous pardonne nos péchés, mais il vient par son Esprit nous donner la force de marcher sur la puissance du mal, afin que nous ne soyons pas vaincus par lui, mais vainqueurs de lui. Le chrétien doit marcher dans la victoire sur le péché. Et s'il ne fait pas, en acceptant peut-être certaines choses dont on a tendance à dire « Oh !» Vous connaissez cette expression ici dans la région, mais ça c'est une peccadille. C'est bien provençal ça, hein ? Une peccadille. Mais voyez-vous, cette peccadille-là, c'est justement elle qui va faire des ravages épouvantables. Aman, lui, eh bien, c'était un grand pécheur. Mais il était précisément un descendant d'Agag. Et vous savez ce qu'avait fait le roi Saül ? Il avait entendu la voix de Dieu lui dire, les Agagites, les Amalécites, pardon, plutôt, ils doivent être détruits. Mais vous savez aussi bien que moi ce qu'il a fait. Il a préservé le meilleur des troupeaux, et puis il a préservé le roi Agag. Permettez-moi ici une petite comparaison. Vous savez, les troupeaux, le beau, merveilleux bétail, le troupeau le plus beau, comme celui qui était composé peut-être de brebis moins belles, tout cela devait être dévoué par interdit. Nous faisons des fois des différences. Nous disons ça, c'est vraiment grossier, il faut s'en séparer, c'est pas bien. Mais nous avons tendance à considérer que certaines autres choses sont bonnes et nous voulons bien les conserver, les garder. Je m'explique. Je vous ai déjà parlé de cela. Mais regardez Nicodème quand il vient trouver le Seigneur. Est-ce que c'était pas un homme vraiment digne de Dieu? La Bible dit, écoutez bien, docteur de la loi. Nous connaissons les exigences pour les docteurs de la loi. Ils priaient tous les jours, à peu près 2 heures par jour. Je ne crois pas qu'il y ait des chrétiens ici qui prient autant de temps par jour. Ils étaient capables de jeûner au moins une fois par semaine. Ils donnaient la dîme de tous les revenus à Dieu. Vous ne croyez pas que ce sont de bonnes choses, hein? Qui pourra dire que la prière est mauvaise? Qui pourra dire que de donner une part de ses biens à Dieu, c'est mauvais? Qui pourra dire que jeûner, c'est une chose que l'on doit bannir de notre vie parce que c'est une chose mauvaise? Chacun d'entre nous sait que ça rentre dans le cadre de ce qui est bon. Et quand il est arrivé devant le Seigneur lui a pas dit « Oh, toi, finalement, il ne te manque qu'une seule chose. Suis-moi. Tu es tellement parfait, tu es tellement bon, tu es tellement formidable. » Certainement que les autres lui disaient cela. « Oh, Nicodème, c'est extraordinaire ta vie. J'aimerais pouvoir faire la même chose que toi. » Est-ce que c'est ça que Jésus lui a dit? Il lui a dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui viennent de la chair, et la chair, elle ne fait pas toujours que des choses mauvaises. Elle est aussi capable de faire des choses bonnes. Mais les choses bonnes, comme les mauvaises, doivent être placées au pied de la croix. Parce que c'est seulement de sa justice que nous devons vivre. C'est par la puissance et la force de son esprit en nous, la seule puissance qui est capable de dominer notre chair, notre cœur, et de nous soumettre à la volonté du Seigneur. C'est la raison pour laquelle la Bible parle souvent de ce combat. Qui est-ce qui est capable d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ? Qui est-ce qui crée le vouloir et le faire dans notre vie? C'est bien le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours réclamer cette force-là. Sinon, eh bien, nous pouvons être tout simplement des gens qui ont été, comment dirais-je, un petit peu domptés par la religion, mais dont le cœur n'a pas changé. Vous savez, moi j'ai toujours été étonné, en allant parfois, lorsque j'étais enfant ou adolescent, au cirque, j'ai vu des choses qui sont étonnantes, vous les avez vues aussi. J'ai vu parfois un lion ouvrir la gueule, enfin, il ouvrait la gueule parce que le dompteur lui ouvrait la gueule, et j'ai vu le dompteur placer sa tête dans la gueule du lion. J'ai vu des bêtes féroces faire des choses qui étaient formidables. J'ai vu comment il pouvait obéir, je dirais, au doigt et à l'œil, au dompteur. Mais je voudrais vous dire, même dompté, le dompteur ne prendra jamais le repas avec lui, vous savez. Parce qu'il reste toujours une bête sauvage. Il est capable de faire certaines choses bien, parce qu'il est dompté, mais sa nature n'est pas changée. Et il y a des hommes qui sont parfois dans l'Église, et des femmes aussi, qui sont domptés par la religion. Et ils savent très bien ce qui est bien ou mal. Et ils ont réussi, effectivement, à faire certaines choses parce qu'ils sont domptés, mais ils n'ont pas été régénérés. Et le Saint-Esprit, quand il nous régénère, nous débarrasse de nos convoitises, de nos mauvais désirs, de toutes ces choses-là qui, finalement, peuvent nous conduire sur une voie qui est extrêmement dangereuse. Et je profite de l'occasion pour vous dire, mes frères et sœurs, ces deux hommes qui ont payé de leur vie cette mauvaise pensée qu'ils ont eue d'assassiner Assuérus, Ces deux hommes-là, ils ont été conduits jusque-là par quel moyen ? Bien par une sorte de colère intérieure qui n'a pas été domptée, dominée. Et je dirais que c'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Il y a des petites choses, des pointes d'amertume, des pointes de haine parfois, qui peuvent se trouver dans notre cœur et qui constituent autant de dangers. Parce que dans un moment de faiblesse humaine, ces choses-là peuvent arriver à prendre le contrôle de notre être, nous dominer et nous pousser à faire des choses qui sont horribles. Et surtout, mes frères et sœurs, ne me dites pas, ça ne m'arrivera pas. Je ne vais pas le dire moi-même. Savez-vous pourquoi ? Parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Tous ici, nous sommes conscients parce que nous avons vécu cela et nous avons vu cela. Il y a des témoignages de cela. Il y a eu des hommes remarquables, extraordinaires, qui ont été utilisés au service de Dieu et pour lesquels on a un souvenir qui est vraiment précieux pour certaines choses qu'ils ont faites au moment où ils étaient dominés, contrôlés par l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, nous avons reçu le témoignage de certains qui aujourd'hui ne sont plus au milieu de nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sombré dans l'adultère, sombré même parfois dans la prostitution, sombré dans des choses terribles, dans l'alcoolisme, dans d'autres domaines. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas veillé. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Et la parole de Dieu nous lance un avertissement pour que nous portions nos regards sur le Seigneur et que nous fassions attention. Aman, eh bien, maintenant, il a une bonne place. Et je voudrais simplement vous inviter à considérer combien cet homme est orgueilleux, mais je vais simplement lire pour vous. Vous savez, Esther, qui elle était dominée par le Seigneur, parce que finalement, elle a compris petit à petit que si elle occupait une place comme celle qu'elle avait, c'était dû à la grâce de Dieu dans sa vie. Et elle a cherché le Seigneur et elle a reçu une sagesse, un discernement, une manière de se comporter qui était noble. Et puis à un moment donné, alors elle a eu l'occasion, mais je passe sur les détails, ça ferait l'occasion d'une autre méditation une autre fois, de pouvoir entrer en contact avec le roi, parce qu'à cette époque-là, comme il y avait plusieurs femmes et plusieurs concubines, eh bien, elle ne pouvait pas toujours s'approcher du roi. Mais elle a eu un moment favorable où elle a pu s'approcher du roi. Et quand le roi l'a vue, son cœur a commencé à battre. Et au lieu de la repousser comme il aurait pu le faire, mais s'il avait fait cela, c'était la mort pour elle. Il lui a tendu le sceptre, elle a touché le sceptre. Pour nous, c'est le symbole de la grâce que nous pouvons toucher de la part de notre roi et de notre Seigneur. Et là, le roi lui a dit, « Demande-moi ce que tu veux, je vais te l'accorder, même si c'était une part de mon royaume. » Et il l'a lu plusieurs fois d'ailleurs, mais vous remarquerez en relisant tranquillement chez vous cette histoire qu'il a fallu que le roi lui demande 3 fois cela pour qu'enfin elle puisse répondre et dire la raison pour laquelle elle était venue en contact avec lui. Au préalable, qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, elle a dit, « Eh bien, écoute, je vais organiser un festin. » Mais quel est le bonhomme qui n'est pas content lorsque sa femme lui prépare un bon repas ? Pas vrai, ma chérie ? Tout le monde est content. Et là, le roi, il a dit, « Ah, mais c'est formidable, Esther ! C'est pour ça que tu es venue ?» Elle a dit, « Oui, mais je voudrais aussi que Assuérus soit là. » Ah ! Vous avez vu ? Comme elle est intelligente ? Haman soit là. Et Haman, Évidemment, quand il a su cela, il a eu son cœur déjà orgueilleux qui s'est encore plus enflé. Et quand il est retourné à la maison, il a dit à sa femme, « Tu te rends compte l'importance que j'ai, Esther ?» Et elle a demandé que je vienne parce qu'elle prépare un festin pour le roi et moi, je suis invité. Moi, l'important. T'imagines un peu comme c'est grand. Mais Esther savait très bien. Et pendant que... Pardon, je vais ramener au temps présent. Je dirais, pendant qu'il prenait l'apéritif, le roi s'est approché encore d'elle et lui a dit, « Enfin, Esther, dis-moi un peu, pourquoi tu fais ça ?» Elle a dit, « Écoute, je vais préparer encore un repas pour demain. » Parce qu'il a fallu 3 jours, hein. Demain, tu reviendras ici et tu amèneras encore Aman. Alors imaginez un peu comme Aman était honoré. Mais Esther, elle avait été préparée parce que Mardoché, qu'elle respectait, qu'elle aimait, qui était un homme de Dieu. Vous savez, cet homme, c'est un petit bonhomme. C'est un petit homme. C'est d'ailleurs la signification de son nom. Petit homme. Et cet homme-là, il était quand même en relation avec Dieu. Il était peut-être petit aux yeux des autres, mais grand aux yeux de l'Éternel. Et Mardoché, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, tu sais Esther, c'est Dieu qui t'a amené là. Hein? Et s'il t'a amené là, sur le trône, ne t'imagine pas que toi, tu vas être épargné quand le méchant, là, va se manifester. Et elle a pris conscience de cela. Et vous savez ce qu'elle a fait? Écoutez bien, mes frères et sœurs, il y a là quand même une leçon pour chacun d'entre nous. Elle a dit, eh bien, écoute, Mardoché, parle au peuple juif. Dis-lui que pendant 3 jours, il jeûne, il prie, il cherche la face de Dieu. Et moi aussi, je vais prier et chercher la face de Dieu. En fait, le nom de Dieu ne se trouve pas dans la Bible. Mais elle dit, je vais jeûner et prier. Prier ? Vers qui montent les prières ? Vers Dieu. Elle a cherché Dieu. Et au bon moment, elle a commencé à agir, à intervenir. Et c'est là que... En fin de compte, au bout de ces jours, quand le roi, pour la 3e fois, lui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux, Esther ? Je vais te donner même la moitié de mon royaume. Si tu me le demandes, tu peux demander ce que tu voudras. Je te l'accorderai. » Elle va dire, « Eh bien, je voudrais que tu résilies cette sorte d'acte qui a été passé comme quoi un peuple qui se trouve au milieu de ton royaume, eh bien, doit être éliminé. » Le roi très étonné, il dit, quoi? Mais quel insensé celui-là! Aman est venu vers lui et lui a dit, tu sais, il y a dans ton royaume un peuple qui va te porter du tort. Il n'a pas fait d'enquête, là, le roi. Il ne s'est même pas préoccupé. Il lui a dit, si tu veux, je m'occupe de cela. Vous avez remarqué, je vous ai raconté l'histoire d'Agag. Lui, c'est un descendant d'Agag. L'esprit de vengeance est venu dans son cœur parce que de génération en génération, on lui a dit, Israël doit être éliminé, Israël doit être détruit. Et lui, eh bien, il ne poursuit que ce seul but-là. Et Assuérus, quand Aman lui a dit cela, il aurait dû avoir plus de précautions. Et qu'est-ce qu'il dit? Simplement parce que Aman lui dit, tu sais, ça peut te rapporter de l'argent. Hein? 10 000 talents d'argent. J'ai voulu regarder, vous savez ce que ça représente? 375 tonnes d'argent. C'est avec cela qu'on faisait la monnaie à cette époque-là. Mais imaginez le roi, il n'y a que ça, la cupidité qui a aveuglé cet homme. Alors il a enlevé son anneau et il lui a dit, allez, fais ce que tu veux, ce peuple est à toi, fais exactement ce que tu veux. C'est comme si l'un d'entre vous, le plus riche parmi vous, je ne sais pas qui c'est, mais le plus riche parmi vous, vient vers moi, il prend la carte Mastercard et il dit, tenez frère Ferris, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a personne qui va le faire. Mais là, c'est exactement ce qu'il a fait, car avec l'anneau, que faisait le roi? Tous les décrets, eh bien, étaient scellés. À un moment donné, on plaçait à cette époque une boule d'argile, et puis on écrasait avec l'anneau du roi. Il y avait un sceau particulier, un signe particulier, et cela voulait dire, ça doit être exécuté. Eh bien, le roi n'avait plus l'anneau, c'est Aman qui avait l'autorité, et il faisait ce que bon sens lui semble, et voilà comment le décret a été fait. Mais quand le roi a appris, finalement, par Esther, qui lui a dit, mais tu sais, celui qui est l'organisateur de tout ça, c'est Aman. Alors le roi, il a changé de couleur. La Bible me dit, vous lirez ça tranquillement à la maison, il s'est levé de table, il a quitté le festin, il est allé à part, il a commencé à réfléchir, il a dû, mais, il était très en colère. Ça s'est retourné contre Aman. Je passe les détails. Finalement, Aman, qui avait préparé une potence pour Mardoché, a été pendu lui-même à cette potence-là. Je dirais, mes frères et sœurs, nous avons un grand défenseur. Nous avons un grand avocat. Et lui peut faire retourner les armes que le diable utilise contre nous et s'en servir en les retournant contre lui. Parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Mais il y a là quelque chose quand même qui vaut la peine de souligner. Je vous ai raconté, j'en ai juste pour quelques minutes à peine, je vous ai raconté comment effectivement Mardoché avait déjoué un plan qui était machiavélique contre Assuérus. Il n'en avait reçu aucune récompense. Mais vous savez, ce que les hommes oublient, Dieu ne l'oublie pas. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici au milieu de nous qui fait l'objet d'injustice et qui ne comprend pas, qui se dit pourtant, j'ai voulu faire cela pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Puis il ne reçoit pas de reconnaissance, rien. Mais je voudrais vous citer un verset. Et ce verset, c'est celui-ci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Ce que vous avez fait dans l'ombre, sans que personne ne s'en aperçoive ou ne veuille reconnaître l'efficacité de votre travail, peu importe, Dieu l'a vu. Et il n'y a pas un seul petit geste que Dieu ne sache reconnaître et pour lequel un jour il y aura une récompense. Et ça, c'est quand même précieux pour chacun d'entre nous. Et vous savez comment Dieu agit? Le roi sort dans son lit, il tourne d'un côté, il tourne de l'autre, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Mais qui est-ce qui l'empêche de dormir? Ben là, je vais vous dire, c'est vraiment Dieu qui lui donne cette sorte d'insomnie, il ne peut pas dormir. Et il demande qu'on lui emporte justement des livres où se trouve l'histoire, ce qui correspond à l'histoire de son royaume. Et il lit, et il lit, et il tombe justement sur ce passage où il est dit que quelqu'un avait déjoué le plan de l'adversaire et que deux hommes qui devaient s'en prendre à sa vie, eh bien, ont été jugés. Et d'un seul coup, il dit, mais c'est qui a déjoué ce plan-là? Il avait oublié, lui. Il avait oublié, exactement comme il avait oublié quand Esther lui parle du décret. Il avait oublié que c'était lui qui avait donné l'accord. Alors, les deux êtres qui sont à côté de lui lui disent, mais c'est Mardoché. Et il a dit, et Mardoché, quelle est la récompense qu'il a eue pour avoir fait cela? Mais ils disent, rien. Alors il dit, il faut que cet homme-là soit honoré. Vous voyez comment Dieu se souvient des choses? Vous voyez que rien ne passe inaperçu aux yeux de l'Éternel? Et justement, même si pendant un temps, il a connu l'injustice, l'oubli, le manque de reconnaissance, Dieu veillait sur lui. Et le moment est venu pour lui qu'il soit honoré. Et vous savez qui a été obligé de l'honorer? C'est Aman. Qui avant, justement, d'être pendu, a été obligé de proclamer dans toute la ville, vous voyez son humiliation. Lui qui n'était pas content parce que Mardoché ne se posternait pas devant lui, il est obligé maintenant de placer Mardoché sur une monture et lui il marche à côté, il proclame partout, voilà comment le roi veut honorer un tel homme. C'est formidable ça, hein? Ça c'est extraordinaire. Il devait en avoir vraiment marre, hein, de faire cela. Il y a une expression que vous connaissez, je ne vais pas l'utiliser ce matin. Les joueurs de boules doivent le connaître. Aman, il a payé. Je termine et en trois points très rapides. Il y a trois leçons à tirer pour les trois protagonistes de cette histoire-là. Mardoché, petit homme, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne devons jamais oublier, c'est ce que nous avons dit, que Dieu, lui, n'oublie aucun geste que nous avons accompli pour la gloire de son nom. Et nous devons penser en même temps à tous les chrétiens persécutés dans le monde qui subissent une grande injustice parce qu'ils veulent rester fidèles à leur Dieu et que certains payent de leur propre vie. Aman, l'orgueilleux, le vantard. Nous ne devons jamais sous-estimer la nature diabolique de l'esprit de vengeance. Et mes frères et sœurs, s'il y a une petite pointe d'amertume ou de haine qui nous pousserait dans un esprit de vengeance, demandons à Dieu de triompher de cela. Parce que ça peut nous conduire à la mort. Comme ça conduit Aman à la mort. Et puis, la dernière chose, ne surestimons jamais notre importance personnelle, comme ça a été le cas d'Assuérus, qui se croyait tout puissant et qui a conféré l'autorité aux autres d'une manière anormale. Et c'est dommage que, emporté par l'orgueil de sa position, il ait pu tout simplement céder à un certain chantage et tomber aussi dans la cupidité. Heureusement que plus tard Dieu lui a ouvert les yeux. Mais tout cela, mes frères et sœurs, doit nous servir de leçon. Que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous ta sagesse. Accorde-nous ta grâce, afin que nous ne succombions pas dans toutes les ruses du malin qui essaie par tous les moyens de nous détourner de ta voie, mais que te restant fidèles, nous puissions t'honorer et te glorifier jusqu'à notre dernier souffle. Bénis mes frères et sœurs ici présents sans exception et que tous ensemble, nous puissions servir à la louange et à la gloire de ton nom. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen.